אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א' בחלק א', בדף ט' ו' עמוד 15, הסתכלות פנימית, אות ה'. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן גם שם לשאול שאלות, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף ט' ו', עמוד 15, הסתכלות פנימית, אות ה', בטור ב'. איך יצויר שינוי צורה בבריאה ביחס אין סוף? אות ה'. אמנם עדיין לא הונח לנו, אלא בעולם הזה, בנפשות בני אדם, אבל בדבר הנשמה, שאמרו בה שהיא חלק אלוקים ממעל, עדיין לא נתבאר איך נבדלת היא מאלוקיות, עד שייתכן לקרותה חלק אלוקי. ואין לומר, על ידי שינוי הצורה, דחס ושלום לומר כן, דכבר ביררנו שהאלוקיות היא אור פשוט, הכולל כל מיני ריבוי הצורות והיפוך הצורות שבעולם, באחדותו הפשוטה, בסוד אחד יחיד ומיוחד, כנ"ל. ואם כן, איך תצויר לנו בחינת שינוי הצורה בנשמה שתהיה משונה מאלוקיות, שמשום זה תהיה נבדלת, לקנות שם חלק ממנו, התברך. ובאמת, קושייה זו נוהגת ביותר באור אינסוף שמטרם הצמצום. כי זו המציאות שלפנינו, כל העולמות, עליונים ותחתונים יחד, נבחנים בשתי הבחנות. ההבחן האלף הוא צורת כל המציאות הזו, איך שהיא בטרם הצמצום. שהכל היה אז בלי גבול ובלי סוף. והבחן זה נקרא אור אין סוף ברוך הוא. ההבחן הבית הוא צורת כל המציאות הזו שכבר באה מהצמצום ולמטה, אשר הכל הוא בגבול ומידה. והבחן זה נקרא דלת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. ונודע שבעצמותו התברך, לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל, ואין בו שום שם וכינוי, שכל מה שלא נשיג, איך נגדירו בשם, שכל שם עניינו השגה, שמורה שמושג לנו בבחינת השם הזה, ועל כן ודאי שבעצמותו התברך, אין שום שם וכינוי כלל וכלל, וכל השמות והכינויים, הם רק באורו התברך המתפשט ממנו, אשר התפשטות אורו התברך מטרם הצמצום, שהייתה ממלאת כל המציאות בלי גבול וסוף, היא נקראת בשם אין סוף ברוך הוא. ולפי זה צריך להבין במה שאור אין סוף ברוך הוא מוגדר לעצמו, ויצא מכלל עצמותו התברך, עד שנוכל להגדירו בשם, כמו שיקשנו בנשמה, כנ"ל.
זה דברים שאנחנו לא כל כך מבינים, אנחנו מתארים יודע מה ואין לנו שום ביקורת על זה.
Ce sont des choses que nous ne comprenons pas vraiment, nous pouvons les décrire de différentes façons et en fait on n'a pas de moyens encore de l'inspecter, mais au moins nous devrions accepter que nous ne pouvons pas définir Ein Sof, l'infinité, selon les compétences que nous avons dans notre monde, mais plutôt si on parle de l'influence du Créateur, de l'influence directe du Créateur, ça s'appelait le don infini, et ça, c'est la même attitude que le Créateur doit développer vers le Créateur pour atteindre le degré du Créateur, l'essence du Créateur, la complétude du Créateur. Donc pour ça, nous devons connaître les actions du Créateur. De tes actions, nous te connaissons. Et ensuite, nous-mêmes arrivons également à l'état de Ein Sof. et nous sommes inclus dedans.
Mais
si tu veux demander, vas-y. Il dit que dans Atzmuto, il n'y a pas de nom. Tous les noms et les appellations sont seulement au sujet de la lumière qui s'étend de lui. Rav, sa lumière qui s'étend dans la créature, dans le désir de recevoir, c'est appelé l'extension. Il est impressionné dans ce qui s'étend de lui, alors il nomme les influences du Créateur. Bien sûr, ce n'est pas le Créateur, c'est ses propres impressions, parce qu'il ne peut pas vraiment parler de la lumière elle-même. La lumière est déjà le résultat, la combinaison de la relation entre le Créateur et la créature, comment le Créateur se relationne aux créatures et comment la créature reçoit ça du Créateur. Ok, donc les noms, c'est seulement une issue. C'est le résultat d'une certaine extension du Créateur dans la créature, et le Créateur est impressionné par cela et donne un nom à cette impression. Donc cette essence, on ne s'engage pas dedans du tout, Atzmuto ? Non, ni dans son essence, ni dans la lumière elle-même. C'est-à-dire que les lumières nous influencent, on doit simplement connaître clairement. Nous sommes seulement engagés dans notre propre impression de son influence sur nous. Je ne sais pas quoi il influence. Nous savons comment est-ce que nous sommes impressionnés. Mais on le connaît de son essence, n'est-ce pas ? C'est personnel, c'est de son essence. Alors, qu'est-ce que tu veux dire de son essence ? Disons que tu es un petit enfant et maman te met des choses dans la bouche et tu ne veux pas, tu secoues les jambes, tu ne veux pas. Donc, comment est-ce que tu acceptes l'amour infini de ta mère ? Ça, c'est le résultat, n'est-ce pas ? C'est le résultat. Un résultat. Mais en conséquence, tu dis « maman est mauvaise », n'est-ce pas ? C'est ce que tu dis tout le temps aujourd'hui aussi. Non, maman est bonne. Ok, maman est bonne. Le créateur est mauvais. Bien. Donc, tu comprends. C'est comme ça. C'est entièrement selon les kabbalistes, comme il est écrit, le premier homme, Adam Harishon, a donné des noms minéral, végétal, parlant à tout le monde. Donc toutes ces lettres, comme il est ici, la disparité de forme, les noms, ces appellations, ce résultat, ce n'est pas une invention, mais les kabbalistes conduisent certaines langues pour que tu puisses comprendre ce qui t'arrive ou quoi. Il y avait un problème, disons que je suis Adam Harishon avant qu'il donne des noms. Donc je vois le monde tout entier. Où est-ce que je l'atteins ? Où est-ce que je le vois ? Dans mon désir. Dans mon désir, comment est-ce que je le vois ? Comment est-ce que je le ressens ? Je le vois, je le ressens. Donc, en fonction de cela, je donne un nom. Ça, c'est chaud, froid, salé, sucré. Dans toute chose, je donne les noms et tout dépend de la personne qui atteint. C'est pourquoi une personne juge seulement à travers ses propres défauts. Donc les langages, c'est comme un accord entre les kabbalistes pour utiliser, parce que cette langage vient du degré spirituel. Quiconque est dans un degré spirituel atteint plus ou moins ce que les autres atteignent. Disons que je suis dans le 10e degré sur l'échelle. Quelqu'un dit qu'il est à la 17e degré ou 18e degré, mais je le comprends au moins comme un petit comprend un adulte. Tu sais, l'un est plus ignorant et l'autre est plus sage. Mais il y a une différence entre les degrés. Quoi qu'il en soit, jusqu'à ce qu'on rentre dans l'échelle, on n'a pas de compréhension de ce dont il parle. Donc, dépêche-toi. C'est tout. Allons-y. On continue à lire, paragraphe 6, l'explication au sujet du texte de nos sages. Ainsi, il y a eu du travail préparé pour la récompense dans le Neshamot, les âmes, où l'un mange ce qui n'est pas dans son propre, a peur de regarder sur son visage. Paragraphe 6. Dans certaines mesures, pour comprendre dans son lieu sublime, nous devons comprendre d'autres détails, de comprendre toute la réalité qui est devant nous et son but général. Est-ce qu'il y a une opération sans but ? Ou est-ce qu'il y a un opérateur sans opérateur ? Et quel est ce but pour lequel il a inventé toute cette réalité devant nous dans le monde supérieur et inférieur ? En effet, nos sages nous ont déjà instruits dans de nombreux endroits que tous les mondes n'ont pas été créés si ce n'est pour Israël qui maintient la Torah et les mitzvot, etc. Et ceci est bien connu. Quoi qu'il en soit, nous devrions comprendre cette question de nos sages. Ils ont demandé si le but de la création des mondes est de réjouir ces créatures, alors pourquoi est-ce qu'il a créé ce monde turbulent et tourmenté, sans lequel certainement il réjouirait les Neshamot, les âmes, autant qu'il le voudrait. Pourquoi a-t-il porté la Neshama dans un corps tellement plein? Ils ont expliqué dans le verset, celui qui mange ce qui n'est pas son lui-même a peur de son propre visage. Cela signifie qu'il y a un défaut de honte dans chaque cadeau. Afin de répandre le Neshamot, il a créé ce monde où il y a la capacité de travailler. C'est pourquoi ils se réjouiront dans le travail dans le futur, puisqu'ils prennent la récompense du tout en retour de leur travail, et ainsi répandent, éviteront la honte. Alors, c'est-à-dire, il y a une question, comme il dit, si c'est le Créateur veut bénéficier, laisse-le bénéficier, pas de problème, tu veux donner, donne, quoi qu'il en soit, afin de préparer l'homme pour la réception de ce bénéfice grand et complet, nous devons le passer par toutes sortes d'étapes, les bonnes, les mauvaises, comme la lumière excelle sur l'obscurité, parce que sans quoi nous n'aurons pas le cli, la reconnaissance, la compréhension de cette profondeur infinie du don qu'il est sur le point d'obtenir. Il est comme un petit bébé. Ou bien, comme ils ont porté ces parties de verre à la place des diamants aux Amérindiens, et ils ont reçu en échange quelque chose de très précieux. Autour, tu peux donner des diamants à un bébé et il va y jouer comme si ce sera des simples pierres. Donc, nous devons être sur à la hauteur de la compréhension de vraiment ce qu'on obtient. Pour ça, les kélim, les récipients doivent se développer graduellement. Et le résultat est dans les kélim, et donc alors tout sera révélé. Et de telle façon, en effet, nous pouvons couvrir, et plus important, couvrir la réception du Créateur avec le don de nous. Et ensuite, nous inspirons la honte, parce que la honte a été créée exprès pour être une mesure pour la réception correcte par nous, que nous vraiment recevons d'une façon juste afin de donner. Et alors nous intervertissons la réception. Donc tout notre travail doit commencer de zéro et passer par toutes les étapes sans en sauter aucune, parce que, en fin de compte, l'un dans l'autre, on découvre toutes ces étapes. Ça s'est appelé Rav Kalin Metzapelet, jusqu'à la fin de chaque action, jusqu'à la fin de la correction. Est-ce que c'est clair? Bien. Oui. En fait, il explique que tout ce monde corrompu a été créé afin que les gens apprennent Jusqu'à ce qu'une personne atteigne la fin de la correction, il doit se réincarner dans une réalité qui inclut également ce monde. Exact. Donc il dit que tout ce monde qui a été créé afin que l'homme puisse apprendre qu'il doit payer pour chaque plaisir. Est-ce que ça, c'est le but de la création de ce monde ? Bien, disons que ça aussi, c'est quelque chose de petit. Quoi d'autre, hormis cela ? Parce que ça, c'est l'unique chose que j'ai compris. Il est inspiré de par la honte. C'est pas parce que il veut recevoir. Il a aussi la honte parce que il doit aussi payer par le don. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, dans le don, il y a un grand plaisir, et ce plaisir de don, tu dois aussi faire avec. Comment est-ce qu'une personne paye pour donner? Donner est accompagné par le plaisir. Tu peux recevoir, comme dans ce monde, ram, n'est-ce pas? Et si tout à coup tu découvres que tu donnes à quelqu'un de grand, alors tu obtiens du plaisir qui est plus grand que recevoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux lui donner. Et ça, c'est considéré que tu reçois. Qu'est-ce que tu vas faire avec la honte? Bien. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu lui donneras, tu le payes, disons, et il va te donner 1000 dollars ou 1 million de dollars, peu importe combien. Mais pourquoi? Donc encore, c'est afin de... Comment est-ce que tu vas couvrir le plaisir de donner? Apparemment, tu peux donner à une grande personne et dans ce don, n'est-ce pas? C'est un problème, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas simple. Ce monde n'est pas fini par des dons donne et prend. Ok, donc on continue. Nous sommes au paragraphe 7. Quelle est la relation entre travailler 70 ans et le plaisir éternel, et vous ne trouverez pas un grand don gratuit plus grand que celui-là. Ces paroles sont déroutantes de part en part. Premièrement, notre but premier est notre prière, et épargnez-nous un cadeau gratuit. Nos sages ont dit que le trésor d'un don gratuit n'est préparé que pour les âmes les plus hautes du monde. Leur réponse est encore plus déroutante. Ils ont dit qu'il y a un grand défaut dans les cadeaux offerts gratuitement, à savoir la honte que rencontre chaque destinataire d'un tel cadeau. Pour y remédier, le Créateur a préparé ce monde où il y a du travail et du labeur pour être récompensé dans l'autre monde pour notre travail et notre labeur. Mais cette excuse est très étrange. C'est comme une personne qui dit à son ami « Travaille avec moi une minute, et en retour, je te donnerai tous les plaisirs et les trésors du monde pour le reste de ta vie. » Rav, ça veut dire qu'il y a de tels fous, écoutez, il y a de tels fous qui pensent que moi, je travaillerai ici pour quelques dizaines d'années et plus tard, je rentrerai dans le jardin d'Égypte et puis c'est tout, n'est-ce pas? Qui pense de cette façon? Levez la main. Bien. Je pense que c'était le jardin d'Éden. Donc, malheureusement, ça n'arrivera pas. Malheureusement, ça n'existe pas. Il n'y a pas une telle chose qu'on va travailler un petit peu ici et recevrons dans En Sof là-bas, l'infinité. Sans fin là-bas. Il n'y a pas une telle chose. Les gens établissent ça parce que leur ego aurait aimé que ça soit comme ça. Lis-le encore, s'il te plaît. Paragraphe 7. Ces paroles sont déroutantes de part en part. Premièrement, notre but premier et notre prière est « Épargnez-nous un cadeau gratuit ». Nos sages ont dit que le trésor d'un don gratuit n'est préparé que pour les âmes les plus hautes du monde. Leur réponse est encore plus déroutante. Ils ont dit qu'il y a un grand défaut dans les cadeaux offerts gratuitement, à savoir la honte que rencontre chaque destinataire d'un tel cadeau. Pour y remédier, le Créateur a préparé ce monde où il y a du travail et du labeur pour être récompensé dans l'autre monde pour notre travail et notre labeur. Mais cette excuse est très étrange. C'est comme une personne qui dit à son ami « Travaille avec moi une minute et en retour je te donnerai tous les plaisirs et tous les trésors du monde pour le reste de ta vie. » Il n'y a en effet pas de plus grand cadeau offert gratuitement que celui-là, car la récompense est incomparable avec le travail. Le travail est dans ce monde éphémère, sans valeur comparée à la récompense et au plaisir du monde éternel. Quelle est la valeur du monde qui passe par rapport au monde éternel? C'est encore plus vrai en ce qui concerne la qualité du travail, qui est sans valeur par rapport à la qualité de la récompense. Nous ne pouvons pas dire qu'une partie de la récompense est donnée en échange de notre travail, et le reste est un cadeau offert gratuitement, car à quoi cela servirait-il? Le défaut de la honte subsisterait encore. En effet, leurs paroles ne doivent pas être prises au pied de la lettre, car il y a une signification profonde dans leurs paroles. Et par cela, il termine. Et il continue à donner une réponse plus tard, mais il continue à construire un réseau qui n'est pas encore ressenti. Donc, quelle est la réponse? Donc, oui, Tchika, tu as une explication? Donc, posons une question plus simple. Il dit que... Les cadeaux gratuits sont préparés pour les gâteaux, pour les âmes les plus élevées du monde. C'est qui? Les grands. Mais ils ont travaillé pour ça. Oui, ils ont travaillé pour cela, exact. Mais en fait, est-ce que... Ils savent qu'est-ce que est la honte, Tzvika. Qu'est-ce que ça veut dire, les âmes les plus hontes? Bien, la honte signifie quand est-ce que l'invité ressent la honte? Lorsqu'il reçoit et ne peut rien donner en retour. Lorsqu'il reçoit, n'est-ce pas? Quand il commence à recevoir. Quand on donne, dans la seconde moitié de la lettre, recevoir afin de donner. Qu'est-ce que tu veux dire, la seconde moitié de la lettre? Rav, tu as une partie de la lettre où tu montes sur le degré de donner afin de donner, n'est-ce pas? Et l'autre moitié, c'est recevoir afin de donner. Et là, avant, la honte est révélée. De quelle haine on parle ici? Rav, tu dois travailler avec le désir de recevoir lui-même, tu dois travailler avec lui afin de donner, tu dois ouvrir tout ton kli et commencer à travailler avec afin de donner, c'est-à-dire de la façon opposée. C'est pas clair. Oui, mais quoi, au sujet du pain de la honte? Ah, mais ça, c'est pour les âmes les plus élevées. Est-ce que tu as atteint cela? Quoi, moi ou quiconque? Ceux qui atteignent ces degrés sont appelés les âmes élevées. Ceux qui sont donnés afin de donner sont appelés les âmes les plus basses. Lorsqu'on est en dehors de cela, on n'est pas encore les âmes, on est des bêtes. Nous avons une âme bestiale, juste de la vitalité, c'est tout. Continuons donc. En bref, c'est clair, n'est-ce pas? C'est clair que ce n'est pas la façon dont pense le fou, qu'il y a un monde prochain après que mon corps meurt et que moi je reçois au paradis le jardin d'Éden, donc le ciel, l'enfer, il n'y a rien de tout ça. On revient et on continue. 8. Paragraphe 8. Toute la réalité a été émanée et créée avec une seule pensée. C'est l'opérateur, l'opération même, et c'est en fait la récompense recherchée et l'essence même du travail. 8. Avant de nous plonger dans l'explication de leurs paroles, nous devons comprendre sa pensée en créant les mondes et la réalité devant nous. Ces opérations ne sont pas nées de nombreuses pensées, comme c'est le cas pour nous. Il est un, unique et unifié, de même qu'il est simple. Ainsi, ses orotes s'étendent de lui, orotes et ses lumières, c'est-à-dire simple et unifié, sans aucune multiplicité de formes, comme il est dit. Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni nos voix ne sont mes voix. Vous devez donc comprendre et percevoir que tous les noms et toutes les appellations, ainsi que tous les olamot, les mondes, supérieurs et inférieurs, sont tous une orpachout, unique et unifié. Chez le Créateur, l'or qui s'étend, la lumière, la pensée, l'opération et l'opérateur, et tout ce que le cœur peut penser et contempler, sont en lui une seule et même chose. Ainsi, vous pouvez juger et percevoir que toute cette réalité, Elyonim et Tartonim, sont communs dans l'état final de la fin de la correction, émane et a été créé à partir d'une seule pensée. Cette pensée unique exécute toutes les opérations et l'essence de toutes les opérations, le but et l'essence du travail. C'est en soi toute la perfection et la récompense recherchée, comme expliquait le Rambam, un, unique et unifié. Tout est là. Il n'y a pas de développement, quoi que ce soit ici, autre que cette créature qui doit le découvrir pour lui-même, n'est-ce pas? Et seulement, à propos de quoi c'est, de le développement de l'être. Si la créature ne se développe pas, tout est fermé, il naît bête, il meurt bête, s'il n'atteint pas ce degré qu'il peut atteindre dans la réalité, que dans une pensée tout a été créé et était là avant nous, alors cela dépend entièrement non pas du créateur en fait, mais ça dépend de moi, de la créature. Pour autant que moi, je me développe afin de découvrir la réalité qui est ici. Elle existe, ok? Il y a des questions?
Non.
Est-ce qu'on peut demander au sujet de ce qu'on vient de lire? Oui. Donc il écrit que la sainteté du visage reste. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle nous travaillons dans cette vie et puis nous recevons quelque chose de complètement différent? Qu'est-ce que tu veux dire? Le travail spirituel? Oui, on se corrige. Et on atteint quoi? On atteint quoi que tu atteignes, c'est ce que tu obtiens. C'est ce... tout devant toi. Quoi qu'il en soit, c'est révélé selon les degrés de ta correction. Il écrit à la fin qu'il y a une tentative profonde ici, est-ce qu'on peut l'expliquer? Non, il la cache, donc comment est-ce que je peux la révéler? Quoi qu'il en soit, la récompense ne peut pas être prise, mais plutôt il y a une intention profonde ici, c'est pas dans les airs. Qu'est-ce qui est si profond ici? C'est pas apprendre littéralement qu'une personne pense qu'après qu'il meurt, s'il ne s'est pas corrigé, il obtient quand même une récompense dans le monde suivant ou dans le ciel ou quoi qu'il en soit, il n'y a rien. Tu dois découvrir tout dans tes kelim. Si maintenant tu es le récipient, alors tu recevras. Sinon, tu recevras maintenant ou plus tard parce que ta bête n'est pas ce qui se tient sur ta route. Ton ego est ce qui se tient sur ta route. Et si ton ego se tient sur ta route, alors tu ne peux pas juste le retirer par la mort de la bête. Oui. Il écrit au sujet de l'essence du travail. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est l'essence du travail? Afin de donner... d'atteindre l'équivalence avec le Créateur. Pourquoi Est-ce que ça émerge dans la pensée? Alors lui-même est la récompense et l'issue désirable. C'est entièrement un. Oui. Pourquoi? Comment se fait-il qu'à partir d'une force que nous obtenons de la façon opposée par rapport à nous, il y a du travail? Je ne comprends pas. Le Créateur a créé un désir de recevoir qui est opposé à sa nature, la volonté de donner, afin de rendre le désir de recevoir similaire dans sa forme externe, que le résultat de son usage sera comme le désir de donner. Cela requiert d'installer une intention de donner sur le désir de recevoir afin que j'utilise le désir de recevoir afin de donner à quelqu'un. Et pour cela, mon désir de recevoir doit être intégré avec le désir de recevoir des autres. Mon désir de recevoir doit devenir la volonté de donner en accord avec le désir de donner aux autres, et de cette façon j'atteins l'équivalence avec le Créateur. Donc à la place de la honte, ça se transforme en honneur. Ok, oui, suivant. Question de San Francisco. Est-ce que ce monde a été créé par la honte, ou est-ce qu'il disparaît à partir du moment où nous remboursons le Créateur pour nos efforts? Ce monde disparaîtra lorsque nous achèverons la correction, jusqu'à ce que nous concluions l'échelle. Tout le monde, ça ne disparaîtra pas. Le fait que quelqu'un rentre dans l'échelle et un autre non, ce n'est pas ça. Si quelqu'un atteint la correction finale, tout le monde doit le faire. Et c'est pourquoi ce monde a vélodité. Bon. Et l'importance, c'est que le monde supérieur, même si c'est un monde imaginaire, mais à partir de cela, nous devons découvrir chaque discernement spirituel. Ça commence de ce monde spécifiquement. La honte, c'est de recevoir l'honneur. Exactement, qu'est-ce que c'est la honte? Ça dépend de chaque degré. Est-ce que je donne au Créateur? Oui, non. Oui, Terence?
Rav. למה אנחנו לא מתפללים לקבל את הבושה?
Rav, pourquoi est-ce qu'on prie pour recevoir la honte?
שאומרים לך תתבייש לך, אתה לא מסכים. אתה עוד רוצה להתפלל עבור זה?
Lorsqu'on te dit honte sur toi, tu n'es pas d'accord. Donc tu veux prier pour ça?
אז תתעבוד. תראה בכל מצב ומצב.
Je vais commencer le travail.
ושתתבייש.
Un d'avoir casé
les pense seulement à toi-même et puis honte de cela. Il n'y a pas une telle chose tout seul de pourquoi pas.
Hein?
Lorsque tu revois ta vie précédente, tu sais, parfois, tu sais, tu as honte de quelque chose que tu as fait, oui ou non? Tu n'as pas à nous dire ce que c'est. Mais il y a une telle chose, oui ou non? Bien. Ok, donc
qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer à ressentir la honte? Qu'est-ce qui nous empêche de ressentir ça? Juste.
Non,
la honte apparaît d'en haut. Et pas autrement. On n'a pas la honte en attendant bien vis-à-vis de la dizaine, vis-à-vis des amis, mais c'est pas encore ça. La véritable honte, c'est vis-à-vis du Créateur. Lorsque le Créateur commence à se révéler, alors il y a une question de la honte. Mais ce dont nous parlons ici, ce n'est pas qui a honte, tu vois? Ceux qui s'engagent dans la sagesse de la Kabbale commencent à sentir d'une certaine façon ce qu'est la honte, ceux qui s'engagent dedans, mais ceux qui ne s'y engagent pas ne savent même pas, parce qu'ils n'ont pas de conscience, de connaissance, de désir de recevoir ou quoi que ce soit. Regarde les gens, N'importe quel humain, hormis les kabbalistes, ne savent pas ce qu'est la honte. Ils ne savent pas. Ce n'est pas que délibérément ils font ceci ou cela. Non, simplement, ils, comme des bébés, ils ne savent pas. Ils pourraient être des personnes très importantes, des personnes restreintes, mais ils ne savent pas ce qu'est la honte, parce que la honte apparaît opposée à une influence, une illumination d'en haut. Quand l'autre, d'une certaine façon, approche l'invité et que l'invité commence à sentir qu'il y a quelque chose là, mais il ne peut pas le soutenir et il ne ressent pas la honte de façon innocente. Et c'est comme ça qu'il se comporte. Regarde ce qui se passe. Regarde les nouvelles.
Parce que si je ressens que je reçois du Créateur, si je voudrais être comme lui. Et je commencerai à ressentir quelque chose. Donc comment dans la dizaine, je commence à ressentir, commencer le travail à ressentir que je reçois de lui.
אז איך בעשיריה מתחילים את העבודה הזאת שאתה מתחיל להרגיש שאתה מקבל ממנו?
זה דווקא בעשיריה, אין לך ברירה.
Ça, en fait, c'est dans la dizaine. Il n'y a pas le choix. Spécifiquement, dans la dizaine, plus tu veux te connecter avec tout le monde, plus tu deviens sensible à l'influence du Créateur. Tu commences à acquérir, à développer des sens qui t'aident à détecter le Créateur à l'intérieur de la dizaine. Et ça te donne une façon plus d'illumination de la honte.
Comment
est-ce que je peux augmenter l'importance des amis pour voir que c'est égal à l'importance du Créateur? Tu peux influencer les amis jamais avec des mots. Tu sais, on est repoussé par ces jolis mots seulement parce que tu fais. C'est comme ça que tu les influences. C'est l'unique façon. Est-ce que ça dépend du nombre d'actions qu'une personne fait? Le nombre d'actions aussi. En bref, ferme ta bouche, ouvrir ton cœur. En bref, c'est comme ça.
Oui.
Rav, je suis vraiment confus au sujet de cette honte. On a de la honte, bien sûr qu'on a de la honte. J'ai honte. Si j'avais honte, je ferais tellement de choses dans ce monde. La honte me maintient. J'ai honte de mes voisins, de toi, de tout le monde. C'est une honte, mais c'est une honte égoïste. Je parle du fait qu'il dit les dons gratuits pour les hautes âmes. Donc si j'ai compris correctement, ces hautes âmes, c'est recevoir afin de donner. Donc quelle honte est-ce qu'ils ont là-bas? Ça se passe, on verra quand ça arrivera. C'est une correction qui... Monsieur, regarde, je ne veux pas discuter des discernements qui ne font que nous confondre. Ce n'est pas... adapté. Il écrit pour les âmes élevées, c'est tout. Pas pour moi, je n'ai même pas une âme. La partie de Dieu en haut, la partie du don, est-ce que c'est en moi? Non. Donc, de quoi est-ce que je parle? Mais si je reçois afin de donner du contentement au Créateur, où est-ce que tu reçois l'âme exaltée? Donc quand est-ce que tu seras dans ces degrés? Je ne veux pas parler de cela, je comprends. Comment est-ce que tu peux parler d'états irréalistes qui ne sont pas dans ta réalité? Tu ne comprends pas ce qu'ils sont, juste au moins, et l'esprit de comprendre que tu ne peux pas saisir ces choses-là. Oui. Vas-y. Rabash Gimel, celui qui prie pour son ami. Il est dit, pour toi le Créateur, la charité, la honte est pour nous. La question de la honte devrait être ressentie parmi les donneurs. Et alors cela deviendra, comme nous sages dit, répète-le, la question de la honte, que afin de ressentir la honte, tu dois la ressentir avant le donneur. Et alors cela peut advenir, comme nos sages ont dit, que lorsque tu ne ressens pas le donneur, de qui puis-je avoir honte? C'est pourquoi la charité est pour le Créateur, pour lui donner la foi, et nous aurons honte. Comme il est écrit dans le Zohar, nous savons que nous ne pouvons pas monter sur le degré jusqu'à ce qu'une illumination plus élevée vienne d'en haut afin qu'elle grandisse et s'élève. Bien. Bien. En bref. Paragraphe 9. La question de Tsimtsum explique comment incomplet. Donc maintenant, il commence à nous expliquer que, afin de vraiment atteindre ce que le Créateur a préparé pour nous, le prochain monde, les cieux, tous les états spirituels, l'espérité, l'actualité, la complétude, tout cela vient du travail qui est appelé le travail dans la sagesse de la Kabbale. Mais ce n'est pas qu'on peut travailler quelques dizaines d'années à faire du travail plaisant ici et que ça nous apportera, donnera le ciel. C'est juste quelque chose que les religions peuvent faire pour se confondre. Paragraphe 9. La question du Tzimtzum explique comment une opération incomplète est née d'un opérateur parfait. 9. Le Rav a élaboré au sujet du Tzimtzum dans les premiers chapitres de ce livre, car c'est une affaire très sérieuse. C'est parce qu'il est nécessaire que toutes les corruptions et tous les défauts divers s'étendent et viennent de lui. Il est écrit, je forme la lumière et crée les ténèbres. Mais les corruptions et les ténèbres sont complètement opposées à lui. Alors, comment peuvent-elles naître de l'autre? Aussi, comment peuvent-elles s'unir à l'or, à la lumière et au plaisir de la pensée créatrice? Nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit de deux pensées séparées. Dieu nous en préserve. Ainsi, comment tout ce qui vient de lui descend en ce monde qui est si rempli d'ordures, de tourments et de crasse? Et comment tout cela existe-t-il sous une seule pensée? Chapitre 2, expliquer la pensée de la création. 10. Nous allons maintenant clarifier la pensée de la création. C'est certainement l'acte se termine par la pensée préliminaire. Même chez les humains corporels, avec leurs nombreuses pensées, l'acte se termine dans la pensée préliminaire. Par exemple, lorsque quelqu'un construit sa maison, nous comprenons que la première pensée de cet engagement est la forme de la maison dans laquelle il habite. Par conséquent, il est précédé de nombreuses pensées et opérations jusqu'à ce que cette forme qu'on avait préconçue soit terminée. Cette forme est ce qui apparaît à la fin de toutes ces opérations. Ainsi, l'acte s'est terminé dans la pensée préliminaire. L'acte final, qui est l'axe et le but pour lequel elles ont toutes été créées, et de ravir ces créations, comme il est écrit dans le Zohar. Il est connu que sa pensée se termine et agit immédiatement, car il n'est pas un humain qui est obligé d'agir, mais la pensée elle-même complète tout à la fois. Ainsi, nous pouvons voir que dès qu'il a pensé à la création pour réjouir ses créatures, cet or s'est immédiatement étendu et élargi à partir de lui
dans toute la mesure et la forme des plaisirs qu'il a contemplés. Tout cela est inclus dans cette pensée que nous appelons la pensée de la création. Et examinez cela en profondeur, car les sages ont instruit brièvement ici. Sachez que nous dénommons cette pensée de la création par le nom de Or Ein Sof. C'est parce que nous n'avons pas un seul mot ou une seule parole dans son atzmout pour le définir par quelque nom que ce soit. Rav. Bien, ça c'est clair, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est clair? Il y a un processus. Dans le processus, nous, comme si construisons la maison graduellement. C'est-à-dire, on ne peut pas sauter d'une étape à une étape plus avancée, de beaucoup de degrés, plus en avant. Tout est construit d'une façon que une étape prépare le travail pour l'étape suivante. Et donc, c'est comme ça. Et vraiment, dans toutes sortes de constructions, les choses que nous faisons dans ce travail aussi, c'est clair que ça, c'est notre travail. Donc, la pensée de la création de bénéficier aux créatures, nous devons en arriver à le découvrir. Chacun doit passer par tous les états à travers cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut à faire ici. Et la profonde, et la mort ne t'apporte rien, mais seulement réaliser l'entière pensée de la création du début jusqu'à la fin à travers différentes étapes. Personne ne dit que ça doit être par une voie des corps et ce qu'ils traversent dans ce monde. Mais le désir, parce que rien n'a été construit hormis le désir, quoi qu'il en soit, ce qui se passe dans cette réalité avec laquelle nous sommes familiers aujourd'hui, qui est imaginaire, nous devons maintenant clarifier et voir combien c'est valide. Ce monde auquel il se réfère signifie la forme qui est à l'extérieur de l'échelle spirituelle. Et ici, je veux être précis. Que sous l'échelle ou sous cette ligne de Ein Sof, l'infinité, qui sera bientôt discutée dans la prochaine partie de test. Donc sous la ligne de Ein Sof, il y a ce point intermédiaire qui se tient à l'extérieur de la ligne, c'est-à-dire à l'extérieur de la relation entre le créateur et la créature. Et nous devons être sur ce petit point afin de construire tous les degrés au-dessus de cela. Et cela ne se relationne pas à notre vie corporelle, mais plutôt la connexion entre la vie corporelle et où nous sommes sur l'échelle. Nous devrons clarifier cela. Quelle est la relation avec cela? Et comment? Comment ça fonctionne? C'est pas pour le moment. Et donc, il écrit, ce sont des états plus lofty, et nous devrons être conscients à ce sujet. Mais après la mort, personne n'atteint rien du tout. Et une personne ne juge que ce qu'il voit de ses yeux. C'est plus élevé. Voilà, Soulam, lettre 55. La distance et l'écart entre ce monde et le suivant est que ce monde est atteint dans le présent, que nous avons déjà atteint dans le passé. Mais le monde suivant, que nous n'avons pas encore atteint ici dans le présent, mais nous y arriverons dans le futur, c'est-à-dire en son temps. Tous les deux regardent ce qu'une personne atteint dans ce monde. Dans l'état actuel, ces définitions sont une sorte de flou. Il y en a d'autres? Du livre Marsharot Tarot. Et nous retournons à Sion où nous étions des rêveurs, puisque la vérité sera alors révélée, qui sont tous les sujets qui sont considérés cette vérité et également ne sont qu'imagination. Et ce monde est appelé le monde faux, que la vérité en cela n'est pas réelle. Et tu ne peux pas atteindre la vérité, mais seulement celui qui atteint le degré qui viendra avec lui de ses actions dans le prochain monde, dans ce monde, et tu verras le monde durant sa vie. Il atteindra le monde de vérité dans sa vie corporelle. Continuons. Paragraphe 11. Le désir de recevoir est nécessairement créé dans le Netzal en raison du désir de donner dans le Ma'atzil, et c'est le kli dans lequel le Netzal reçoit sa Shefa. 11. C'est ce que le Rav avait dit. Au commencement, une or simple et supérieure remplissait toute la réalité, puisque le Créateur envisageait de réjouir les créations et que l'or s'étendait de lui et sortait de devant lui. Le désir de recevoir ses plaisirs semblait immédiatement imprégné en lui. Vous pouvez également déterminer que ce ratson est la pleine mesure de l'or en expansion. En d'autres termes, la mesure de son or et de sa shefa est comme la mesure de son désir de réjouir, ni plus ni moins. C'est pourquoi nous appelons l'essence de ce désir de recevoir, qui est imprimé dans cette or par la puissance de sa pensée, par le nom de lieu. Par exemple, quand on dit qu'une personne a un estomac assez grand pour manger une livre de pain, alors qu'une autre personne ne peut pas manger plus d'une demi-livre de pain, de quel lieu parlons-nous? Ce n'est pas la taille des intestins, mais la mesure de l'appétit. Vous voyez que la mesure pour le lieu de la réception du pain dépend de la mesure et du désir de manger. C'est d'autant plus vrai dans la spiritualité, où le désir de recevoir la shefa est le lieu de la shefa, et la shefa est mesurée par l'intensité du désir. Rava. C'est clair, n'est-ce pas? Cela signifie que dans la spiritualité, ce n'est pas question de volume ou de lieu, mais plutôt l'intensité du désir. Le désir, l'intensité du désir, c'est ça ce qui est important pour nous. Suivant. 12. Le désir de recevoir contenu dans la pensée de la création a fait sortir de son atzmout pour acquérir le nom de Ein Sof. 12. Maintenant, vous pouvez voir comment Or Ein Sof s'est éloigné de son atzmout, dans lequel nous ne pouvons prononcer aucun mot, et est devenu défini par le nom Or Ein Sof. C'est à cause de ce discernement ci-dessus que dans cet or, il y a le désir de recevoir incorporé en elle par son atzmout. Il s'agit d'une nouvelle soura qui n'est pas du tout dans son atzmout. Car de qui recevrait-il? Cette soura est aussi la pleine mesure de cet or. Et étudie-le bien, car il est impossible d'élaborer ici. Oui.
Suivant.
C'est-à-dire par le désir de recevoir qui évolue dans la créature sort du créateur et apparemment existe à l'extérieur de lui.
13.
Avant le Tzimtzum, la Shinui Tzura était indiscernable dans le désir de recevoir. 13. Dans sa toute-puissance, cette nouvelle Tzura n'aurait pas été définie comme un changement de son or. C'est le sens des mots Pirkei Avot. Avant la création du monde, il y avait « Il est un » et son nom « un ». Il indique l'or en Ein Sof et son nom implique le lieu, qui est le désir de recevoir de son atzmout contenu dans le Or Ein Sof. Il nous dit qu'il est un et son nom est un. Son nom est Malchut de Ein Sof, c'est-à-dire le Ratson, à savoir le désir de recevoir qui a été gravé dans toute la réalité contenue dans la pensée de la création. Avant le Tzimtzum, on ne considère pas de changement ou de différenciation entre lui et son or et le lieu. Ils ne font qu'un. S'il y avait eu une différence et une lacune par rapport à Or Ein Sof, il y aurait certainement eu deux bérinotes de discernement. Des questions?
Oui, mon cher. Micro, s'il vous plaît, passez-lui. Hier, tu as dit que nous ne pouvons pas parler de la mort. Beaucoup de fois, on dit qu'il n'y a rien après qu'une personne meurt, c'est comme un poulet qui meurt. Oui. Quel est ce point de mort dont on parle? Comment est-ce qu'on peut... On ne parle pas de mort parce que le sujet du corps, c'est entièrement un monde virtuel, imaginaire, qui n'a rien à voir avec nous. On ne parle que du désir. Le désir est revêtu, il est accompagné par les corps et divers phénomènes. Mais ce n'est pas dans le corps lui-même qu'il souffre. Dans la sagesse de la Kabbale, le désir vient dans un corps ou hors du corps, et alors tu arrives du corps mort-vivant. Ça, ce sont les réincarnations, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas les questions de religion pour que ça ne soit pas... Ça, c'est interdit de le révéler. C'est interdit. On en parle ici, mais en fait, vous n'êtes pas supposé d'en parler avec les gens à l'extérieur. Je vous avertis tous, le fait qu'il n'y ait rien après la mort... Vous rendez les gens qui ne veulent pas continuer à vivre. Vous n'êtes pas autorisé à faire une telle chose. Ça, c'est le sens de la phrase. Ne mets pas un obstacle devant un aveugle. Parce que, avec l'amour, en résultat de notre amour à tout le monde, on n'est pas autorisé à le dire à quiconque. Parce que vraiment, tu tues les gens par cela. Au sujet de la honte, on voit dans notre monde corporel aussi, dans toutes sortes de religions, comme au sujet du sexe, il y a beaucoup de honte. Quelle est cette source? Quelle est sa racine? Je ne pense pas que ce soit une chose correcte, parce que si on prend les écritures saintes, on ne parle pas de honte là-bas. Regarde tout ce dont ils parlent. La sagesse de la Kabbale, ils parlent d'accouplement et de utérus et toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il y a là à parler ou de quoi avoir honte? Seulement, si tu utilises ces choses de façon erronée, ça apporte tous ces phénomènes, la honte. Lorsque tu es embarrassé ou quelque chose, tu vois, les politiciens utilisent ça. Regarde ce qu'ils font. Regarde ce qui se passe. Ça, c'est une longue éducation qui provoque cela. Mais il n'y a rien, pas grand-chose à parler. Hier, on a eu la journée des femmes. Eh bien, de quoi est-ce qu'on a parlé? Quelle journée des femmes? Vous savez pourquoi ça a commencé? J'ai même pas envie de vous dire. C'est... une histoire très sale, vraiment sale, pour commencer avec ça, cette journée des femmes, n'est-ce pas? C'est mieux si on n'en parle pas. On va rester politiquement correct. C'est mieux si on lit 14, s'il te plaît. 14. Tzimtzum signifie que Malchut a diminué le désir de recevoir en elle. Puis, l'or a disparu parce qu'il n'y a pas de or sans clé. 14. En ce qui concerne le Tzimtzum, le désir de recevoir qui est contenu dans Or Ensof, appelé Malchut de Ensof, qui est la pensée de la création et qui contient toute la création, s'est embelli pour élever et égaliser sa Tzura avec son Hatzmut. Elle a donc diminué son désir de recevoir, son abondance, à Bechina Dalet dans le désir Ratson. Son intention était, ce faisant, que les Olamot émaneraient et seraient créés jusqu'à ce monde, Olam Chazer. Ainsi, la forme du désir de recevoir, Tsura du désir de recevoir, serait corrigée et retournerait à l'équivalence de forme, Tsura de don, et cela l'amènerait à la
Chitshavut Tsura avec le Matzil. Ainsi, après qu'elle eut diminué le désir de recevoir, l'homme s'en alla naturellement, car on sait que l'or dépend du désir et que le désir est le lieu de la lumière, car il n'y a pas de coercition dans la spiritualité. Et nous allons passer à la prochaine partie de la leçon, mais tout d'abord nous allons chanter une chanson ensemble.
הם בונים שם שיטה נהוב ועל הביסוס לא מוכר הלוואי והייתי קרוב מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה מרגיש כמו
שוגק ומתוקה הם לא מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם נושיטים לי ידיים הם נוליטים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל אתם המסע חשוב ואוף מילים הקושים משוך רצים לזן אוף חשוב השוך נפטס יחשב לפתור את הרבה אבחר למדיר שנתח שוק נלינה מתוקה נתים לי ידיים ולא נתים לי פול חברים שלי אתם נהם את הכל ולא שתים לי ידיים ולא נתים לי פול חברים שלי, השם נהם את הכל. נתם ליפול, נתם נהם, נתם את הכל, לעולם אין. יהודי ליפול, נתם נהם את הכל. לילדיים, לילדיים של שמיים. לחברים שלי, לחברים שלי. הם שיטים ידיים הם לא לוטים ליפול חברים שלי אתם להם את הכל הם לא שוטים לידיים הם לא לוטים ליפול החברים שלי אתם להם את הכל הם לא שוטים לידיים הם לא שוטים ליפול חברים שלי אתן להם את הכל חברים שלי אתן להם את הכל חברים שלי אתן להם את הכל